débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Igemandard Tonté. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au débat BBC Afrique, Africa Radio, dans le menu de votre magazine aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les démons de 2010 vont-ils refaire surface? Le pays se prépare-t-il pour une présidentielle sous haute tension après la validation de 4 candidatures sur les 44 déposées au Conseil constitutionnel? La candidature du président Alassane Ouattara contestée a été validée. Au nombre des candidatures invalidées figure celle de Laurent Gbagbo, l'ancien président, et Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, épinglé à cause de condamnations à des peines de prison prononcées contre eux par la justice ivoirienne. Les opposants protestent et envisagent des actions. Mais lesquelles? Les adversaires d'hier sauront-ils faire taire leur querelle aujourd'hui afin de montrer un front face au troisième mandat d'Alassane Ouattara? Cédera, ne cédera pas, la pression se resserre sur la junte malienne, prise entre son ambition de conduire la transition et l'exigence de la CEDEAO. Le Conseil national pour le salut du peuple a assuré être prêt à des compromis pour le bien du Mali. Seulement des compromis, la CEDEAO n'en a pas fait à Accra cette semaine. L'institution sous-régionale a réaffirmé ses exigences, à savoir une transition dirigée par un président et un vice-président, tous deux civils. Seule condition pour la levée des sanctions imposées au Mali. Et puis vers un report de la présidentielle en Centrafrique, la question se pose. Cette semaine, le gouvernement a travaillé sur un projet de loi portant modification du code électoral pour prolonger la période d'enrôlement des électeurs tout en restant dans les délais constitutionnels. Ce qui est faisable selon le gouvernement, mais l'opposition estime qu'il faut anticiper ce glissement de calendrier électoral. Quelles seront les incidences politiques et sociales d'un éventuel report de ce scrutin? Et l'invité de ce magazine du débat BBC Afrique, Africa Radio aujourd'hui est Guillaume Soro. Monsieur Soro, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Nous avons le plaisir également d'avoir dans ce débat avec nous Ibrahim Koulibaly, journaliste malien, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Ibrahim, bonjour.
Bonjour madame.
Et Gabriel Makaya, journaliste centrafricain, directeur de publication du journal Le Langage. Il est également enseignant à l'école de journalisme de Bangui. Gabriel, bonjour. Gabriel.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous dans ce débat. Petite fiche de présentation de notre invité, bien qu'il soit déjà très connu sur le continent africain. Guillaume Kikbafori Soro, vous êtes né le 8 mai 1972. Ancien chef de la rébellion, ancien ministre de la communication, ancien ministre d'État de la reconstruction et de la réinsertion. Vous avez également dirigé le ministère de la Défense en Côte d'Ivoire et vous avez été premier ministre de Côte d'Ivoire de 2007 à 2012. Nous l'avons dit en introduction, vous avez également été président de l'Assemblée nationale ivoirienne de 2012 à 2019. Et puis, vous êtes candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Monsieur Soro, est-ce qu'il y a une petite précision que vous voudriez apporter dans cette biographie?
Je pense que c'est suffisant. C'est suffisant.
D'accord. Alors, absence de reçu de paiement de la caution de 50 millions de francs CFA, irrégularité dans les listes de parrainage, ce sont là quelques-unes des raisons des rejets de certaines candidatures. Celle de l'ancien président Laurent Gbagbo et la vôtre notamment, Guillaume Soro, ont été invalidées à cause de condamnations à des peines de prison prononcées contre vous. Et au lendemain de cette décision du Conseil constitutionnel, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a publié une ordonnance intimant à l'État ivoirien, je cite, de surseoir à l'exécution de tous les actes pris à votre encontre et de lever tous les obstacles vous empêchant de jouir de tous vos droits d'élire et d'être élu. Je vous propose d'écouter d'abord la réaction de Sidi Thiemoko Touré, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement ivoirien sur cette ordonnance de la Cour.
Le gouvernement n'a pas de réaction sur les décisions judiciaires. Je pense que nous ne nous sentons pas concernés par cette question. Nous l'avons suffisamment affirmé au cours d'une intervention précédente, une déclaration précédente. Cela dit, et il faut aussi relever que l'instance judiciaire que nous reconnaissons, ici c'est le Conseil constitutionnel. Donc il faut éviter de penser que c'est tout l'extérieur qui doit nous imposer le rythme de fonctionnement de nos différentes institutions. Autre et dernière observation sur le sujet, c'est juste une observation et que je mets sur le conditionnel parce qu'il reste tout de même de plus en plus avéré, mais c'est quelque chose à vérifier, que le président de cette cour est partie prenante dans le conseil qui a apporté une requête contre la candidature du président candidat Alassane Ouattara dans le cadre d'une procédure portée par Guillaume Soro.
Guillaume Soro, votre réaction?
Alors, vous savez, le gouvernement ivoirien a habitué la sous-région à des farces. Et donc, je n'ai pas l'habitude de commenter de tels propos, mais quand on voit la vacuité des arguments présentés, c'est tout simplement incroyable. Je vais vous préciser une chose. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples y siège des magistrats d'une haute probité et à l'intégrité reconnue.
Vous voulez dire qu'il n'y a aucune partie prise à la Cour africaine des droits de l'homme?
Bien sûr, c'est impossible. S'il y a bien une justice corrompue, c'est celle qui est en Côte d'Ivoire.
Mais le ministre dit également que la Côte d'Ivoire ne peut pas se laisser guider par l'extérieur.
Mais ça, c'est de la pitrerie. Parce qu'en réalité, la Cour africaine, donc, a pignon sur rue. Et c'est une cour de justice supranationale. Et la Côte d'Ivoire étant à l'Union africaine, ayant signé et souscrit à la charte, doit s'exécuter. D'ailleurs, vous avez un journaliste, M. Kloubali Ibrahim, je crois qu'il est là. De quel droit le président ivoirien Alassane Ouattara se rend-il à Bamako pour demander aux Maliens donc, d'exécuter des décisions de la CEDEAO quand lui-même n'est pas prêt d'exécuter des décisions de l'Union africaine?
C'est alors, le débat sur le Mali, nous allons y revenir en deuxième point. Restons sur le dossier Côte d'Ivoire et notamment votre réaction après cette invalidation du Conseil constitutionnel. Est-ce que vraiment vous ne vous attendiez pas à ce que votre candidature soit rejetée, M. Soro?
Non. Je conteste absolument le Conseil constitutionnel. Je ne reconnais pas à ce Conseil constitutionnel qui est un appendice donc du RHDP, du parti de Ouattara, un quelconque pouvoir d'invalider ma candidature.
Pourquoi? C'est une institution républicaine, régalienne, en Côte d'Ivoire.
Donc, madame, la première personne à contester un Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Parce que le Conseil constitutionnel en 2010, comme vous dites, c'est une institution républicaine. Le Conseil constitutionnel en 2010 avait donné M. Laurent Gbagbo vainqueur. C'est parce que Ouattara a contesté la décision du Conseil constitutionnel en 2010 qu'il est président. Pourquoi ne voulez-vous pas?
Vous voulez la même chose?
Je conteste.
Vous espérez le même scénario? Vous voulez que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision en votre faveur comme il l'a fait?
Le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix que de revenir sur sa décision pour deux raisons. Premièrement, j'ai deux décisions de justice, notamment de la Cour africaine qui demande au Conseil constitutionnel de s'exécuter et de m'inscrire sur la liste électorale et de me laisser candidater. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une jurisprudence en Côte d'Ivoire. C'est cette jurisprudence que j'étais en train de citer. En 2010, le Conseil constitutionnel déclare M. Laurent Gbagbo vainqueur. Après une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine, le même Conseil prend une autre décision pour déclarer M. Ouattara vainqueur. Vous conviendrez avec moi qu'à l'époque, M. Ouattara n'avait que le communiqué d'une réunion. Or, moi, aujourd'hui, en 2020, j'ai deux décisions de justice. Donc, alors, le Conseil constitutionnel ivoirien n'a pas d'autre choix.
Monsieur Soro, les décisions internationales de droit ont primeur sur le droit national. On peut en convenir, soit, mais de quels moyens de coercition exactement dispose la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur un État comme la Côte d'Ivoire?
Oui, mais évidemment, à moins d'être un État voyou qui ne respecte pas donc ses engagements internationaux, il n'y a pas de raison qu'une décision de justice, donc d'une cour supranationale, ne soit pas exécutée. Je vais vous donner une jurisprudence en France. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est pour l'Union africaine ce que la Cour européenne des droits de l'homme et des peuples est pour l'Union européenne. Il y a eu une jurisprudence en France qu'on a appelée l'affaire Maurice Agnellé. Les tribunaux français ont condamné M. Agnellé. La Cour de justice des droits de l'homme et des peuples européennes a cassé la justice de la juridiction française et la France s'est inclinée derrière
Monsieur les barreaux. Soro, qu'est-ce que vous comptez concrètement faire contre cette invalidation de votre candidature?
Ah non, d'abord, un, j'ai demandé à tous les candidats retenus ou non de faire bloc. Et depuis hier, le président Bédier a dit qu'il était d'accord pour faire bloc. Monsieur Mabri Touakos a dit qu'il était d'accord pour faire bloc. Afin Guessant a dit qu'il est d'accord aussi pour faire bloc. Vous voyez que la classe politique ivoirienne est en train de s'unir de façon unilatérale. Nous allons faire bloc et nous allons faire barrage à Ouattara.
Quand vous dites allons faire bloc, concrètement et pratiquement, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, madame, ça relève maintenant des questions de stratégie et de tactique qu'on ne vient pas livrer ici à une radio. Maintenant, ce que je dis, c'est que nous allons faire bloc, nous allons nous concerter et, bien sûr, nous allons barrer la route à Ouattara et il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que les conditions ne seront pas réunies.
Je voudrais quand même vous demander, M. Soro, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas manqué de vigilance au moment du vote de cette constitution qui aujourd'hui permet à M. Ouattara d'être candidat?
Non, madame, c'est faux. La constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat.
Elle ne dit pas le contraire non plus. Elle ne dit pas clairement le contraire non plus.
Oui, elle dit le contraire. Elle dit qu'il n'est éligible qu'une seule fois. La constitution ivoirienne n'a pas de problème, c'est Ouattara qui a un problème. Quand Ouattara dit qu'on est dans la Troisième République et qu'il a droit à deux mandats, mais c'est de la malhonnêteté. Et je suis surpris qu'un monsieur qui a fait le FMI donne dans une telle malhonnêteté. Parce que nous sommes dans la Troisième République. Si la Troisième République devrait mettre les compteurs à zéro, puisque la Constitution a été votée le 8 novembre 2016, M. Alassane Ouattara devait démissionner et puis convoquer de nouvelles élections en 2016. Parce qu'en réalité, M. Ouattara est président et donc il est actuellement président de la Deuxième République alors. Donc on aurait dû, s'il voulait mettre les compteurs à zéro, le 8 novembre 2016, démissionner et convoquer de nouvelles élections présidentielles. Donc c'est du mensonge.
Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé?
Mais non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouattara lui-même, le 8 novembre 2016, a dit « Cette constitution ne me permet pas d'être candidat. » Les vidéos circulent partout sur Internet. Le ministre qui est venu devant moi à l'Assemblée nationale, M. Sansan Kambilé, a dit que cette constitution ne permet pas à M. Ouattara de faire un troisième mandat.
Nous allons inviter nos deux confrères qui sont en ligne dans le débat. Ibrahim Koulibaly.
Oui.
Guillaume Soro reste sur sa candidature. Le Conseil constitutionnel a publié sa décision. Selon vous, que faut-il faire? Ça chemine-t-on vers une présidentielle avec tension?
Oui, certainement et très sûrement. Parce que mais avant cela, je voudrais dire au camarade Soro bonsoir. Parce que Soro, c'est ton camarade de l'AIM. On a fait le congrès de l'IGR à Ouagadougou ensemble.
Nous sommes ravis d'avoir rétabli le contact entre deux anciens camarades.
Lors de votre dernier passage à Bamako, je vous avais remis une photo de notre souvenir de Ouagadougou.
Tout à fait, tout à fait. Merci.
Donc, ceci alors dit, maintenant, je vais demander au journaliste Ibrahim Koulibaly de poser sa question. Oui,
allez-y. Oui, non, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est toute la région, toute la sous-région qui est menacée. Quand on dit aux élections, le vote est un droit. Tout le monde a le droit d'être candidat. Nos présidents africains, il est temps qu'ils arrêtent de jouer avec nos constitutions, avec la loi. Et malheureusement, c'est la faute à nos magistrats que moi je qualifie de sorciers du XXIe siècle. Dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, selon que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, vous êtes blanc ou noir. Donc il faut que cela change. Moi je pense qu'une élection, ça doit être une fête démocratique, une compétition électorale. Il faut laisser donner la chance à tout le monde. Si vous êtes sûr de votre victoire, pourquoi vouloir empêcher d'autres d'aller aux élections? Donc sans parti pris, moi je demande à nos chefs d'État de la sous-région de mettre bas la terre. Nos peuples ont trop souffert. Vraiment, il ne faut plus qu'ils nous amènent à d'autres crises.
Makaya, Gabriel, votre avis? Votre premier avis sur ce dossier Côte d'Ivoire?
Oui, madame, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Mais je voudrais seulement dire qu'en Afrique, nos chefs d'État sont plutôt des torpilleurs de la loi fondamentale. Je voudrais parler de la constitution des différents pays. Et aussi, les présidents en exercice ou en fonction ne respectent pas leur engagement, leurs paroles données. Quand ils prêtent serment, aussitôt après, ils se déjugent.
Allô?
Allô? Allô?
Oui, Makaya, allô?
Oui, je vous écoute.
Il y a un petit retard.
Madame, je voulais dire quelque chose. Je pense que la question du troisième mandat de Ouattara n'est pas un problème ivoirien. C'est une bataille que toute l'Afrique doit mener. Parce que si M. Ouattara réussit à casser la digue, si M. Ouattara réussit à faire le troisième mandat en Côte d'Ivoire, demain, n'allez pas dire à un autre chef d'État de ne pas faire un troisième mandat. Demain, n'allez pas dire à Cyril Ramaphosa de ne pas changer la constitution et de faire un troisième mandat. N'allez pas dire à Boari de ne pas faire. Donc, c'est un combat où tous les Africains doivent s'impliquer et nous devons stopper Ouattara dans sa folie aventurière.
Alors, justement, vous demandez que toute l'Afrique s'implique. Le camp de M. Afingessan a demandé l'intervention de la France. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une influence sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire, quand même?
Oui, non, mais nous, en Côte d'Ivoire, de toute façon, les souverainetés ne sont pas ce qu'elles étaient en 1950. À partir du moment où il y a les regroupements sous-régionaux, continentaux et les regroupements mondiaux.
Alors, vous voulez dire que vous pouvez permettre qu'il y ait une influence étrangère tant que cela arrange une certaine partie?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que les Africains, la sous-région ouest africaine, la CEDEAO, on ne peut pas permettre un troisième mandat dans l'espace de la CEDEAO.
Merci beaucoup, M. Guillaume Soro. Nous allons marquer une pause technique qui s'impose et nous allons nous retrouver après pour la suite de ce débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Igmantar Tonté. Le débat.
C'est la deuxième partie de votre débat, le débat BBC Afrique, Africa Radio, qui reçoit aujourd'hui M. Guillaume Soro avec des commentaires de nos confrères journalistes Ibrahim Koulibaly du Mali et Gabriel Makaya de la Centrafrique. En première partie, nous avions commencé à évoquer ce dossier de la Côte d'Ivoire avec l'invalidation de 40 candidatures déposées au Conseil constitutionnel, dont la candidature de M. Guillaume Soro. Alors Guillaume Soro, vous avez appelé l'opposition à faire bloc contre Alassane Ouattara. Je me demande pourquoi ceux qui étaient vos adversaires hier devraient vous écouter aujourd'hui et se joindre à vos actions pour faire front à Alassane Ouattara.
Simplement parce que nous avons le même problème factuel, conjoncturel. Donc Monsieur Gbagbo est exclu, moi je suis exclu.
Mais on n'a pas encore entendu l'ancien président Laurent Gbagbo sur sa candidature. Son parti a parlé, mais lui-même, nous ne l'entendons pas beaucoup. Est-ce que réellement, il partage cette indignation qui est la vôtre?
Bon, je peux imaginer. qu'il puisse s'indigner, lui qui n'a même pas encore reçu son passeport. Donc, je pense que nous avons demandé à l'opposition de faire bloc. Dimanche, il y aura une réunion de toute l'opposition pour faire effectivement bloc et nous organiser autour de l'unité d'action. Madame, ce que je peux vous dire, M. Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire.
En clair, qu'est-ce que cela veut dire?
Eh bien, M. Ouattara, qui est illégitime, illégal et dont la candidature est inacceptable,
mais qui a été validé par le Conseil constitutionnel actuellement.
Oui, mais un conseil aux ordres corrompus. Vous avez vu le président du Conseil Lourdeau comme il suait. Donc, de peur, n'est-ce pas, de rater...
Vous n'étiez pas dans la salle. Peut-être que si vous étiez dans la salle, vous auriez sué aussi. Peut-être qu'il y faisait chaud, simplement, Monsieur Soro.
Non, mais bon, enfin, bon, je lui concède ça. Mais ce qui est sûr, le président du Conseil constitutionnel actuel, j'ai l'avantage de le connaître. Il a été longtemps mon collaborateur, aussi bien au gouvernement qu'au sein des forces nouvelles. Je sais de quoi il est capable. J'ai su, à la lecture donc, de ce papier... que ce papier ne pouvait pas venir de lui parce que le langage juridique qui y était vraiment basique.
Alors, mais qu'est-ce qui garantit qu'il y aura réellement une synergie d'action entre les candidats qui ont été validés et ceux qui sont jugés illégitimes, qui ont été recalés par le Conseil constitutionnel? Vous avez dit que vous avez parlé avec deux d'entre eux qui sont partants pour des actions.
Bien sûr. Madame, il y a eu 4 candidats retenus. Vous êtes d'accord avec moi?
Exactement.
Il y a 2 qui ont déjà rejoint l'opposition, c'est-à-dire M. Bédier et M. Afi Nguessan.
Mais qui étaient déjà dans l'opposition, qui sont déjà dans l'opposition.
Oui, oui, qui sont dans l'opposition. Voilà, donc nous avons... Moi, j'ai fait appel au président Bédier et au premier ministre Afi Nguessan qui ont marqué leur accord. Donc j'ai fait un 100%. Maintenant, M. Ouattara ne dira pas à l'Afrique qu'il va à des élections tout seul.
Mais il y a un quatrième candidat qui est là, qui pourrait l'accompagner.
Oui, mais...
Le désistement de 2 candidats sur 2 n'annule pas une élection.
Bien sûr que ça annule l'élection. Bien sûr que ça annule l'élection. Ça enlève toute légitimité à l'élection. Ça enlève toute forme de mandat à cette élection. De toutes les façons, nous disons, nous, on va s'organiser. D'ici dimanche, vous verrez, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que il n'y aura pas un nouveau conseil constitutionnel en place, une nouvelle commission électorale indépendante en place pour rétablir les droits des uns et des autres.
Mais quand d'ailleurs, vous parlez, on a l'impression que vous menacez en quelque sorte. Quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection tant que vous n'êtes pas candidat, ça fait peur ce que vous dites.
Non.
Surtout quand on connaît votre poids politique, M. Soro.
Écoutez-moi bien. J'ai dit, le peuple de Côte d'Ivoire ne permettra pas la forfaiture. Le peuple de Côte d'Ivoire ne permettra... Si hier, en 1990, le peuple de Côte d'Ivoire est descendu dans la rue pour exiger d'Oufou Boigny le multipartisme, Ouattara n'est pas plus grand ni fort que Oufou Boigny. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que tout le monde ne sera pas autorisé à être candidat.
Ibrahim Koulibaly, quand Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection tant que lui n'est pas candidat, qu'est-ce qu'il faut y voir? Qu'est-ce qu'il faut y lire? Est-ce que ce sont des paroles qui peuvent attiser encore plus l'attention?
Mais madame, l'attention est déjà là. Moi, je pense que quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection, il parle en fonction de la stratégie qu'il est en train de travailler avec d'autres candidats. Donc, moi, je ne vois pas en cela une menace, mais plutôt, en tout cas, un message à l'endroit des tenants du pouvoir pour qu'un certain nombre de décisions soient revues, pour que tout le monde parte à égale chance. Moi, je dis, c'est très mauvais d'exclure des gens des élections. Ça amène toujours des tensions. Et après, on accuse, en tout cas, ceux qui ont été exclus. Alors que ceux qui excluent, c'est eux les responsables. À vraiment que tout ce qui peut amener des conflits politiques soit évité. Si c'est la condition sine qua non, c'est que tout le monde parte aux élections, mais laissez tout le monde aller aux élections et au décompte final, on saura qui est fort. Mmh. Sinon, vraiment, le problème en Côte d'Ivoire, ça nous inquiète, nous les Maliens.
Gabriel, voyons, monde... oui. Gabriel Makaya, vous pensez que cette synergie que voudrait Guillaume Soro dans l'opposition peut se réaliser? Ceux qui étaient des adversaires hier, peuvent-ils s'entendre aujourd'hui contre Ouattara?
Permettez que je vous dise qu'un absent ne peut pas piéger.
dans une élection. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. S'il serait en Côte d'Ivoire, on comprendrait. Mais il n'est pas du tout en Côte d'Ivoire. Donc, il va lui être difficile de se faire entendre et également de convaincre les autres candidats à s'aligner derrière sa vision à lui.
Guillaume Soro, le fait que vous ne soyez pas sur le territoire actuellement, selon Gabriel, est un handicap pour les actions que vous voulez mener.
Oui, bien sûr. Je ne suis pas physiquement présent, mais j'ai un parti qui y est. Je vous dis que l'opposition se réunit dimanche. On n'est pas en train de faire des analyses ou de faire de la conjoncture ou de la philosophie. Dimanche, là, c'est-à-dire après-demain, l'opposition va se réunir pour dire ce que je suis en train de vous dire. Donc, je suis en train de vous informer.
Mais donc, vous savez déjà ce que l'opposition va dire. On peut avoir une exclusivité sur ce qui va être dit.
Je vous donne une exclusivité.
Oui.
Je vous dis que Bébé est d'accord. Il a écrit. Je l'ai eu au téléphone. J'ai eu Afin Guessant au téléphone. J'ai eu Mabri au téléphone. Donc, je ne suis pas en train de rêver.
Ils sont d'accord. Ils sont d'accord, sauf que vous ne voulez pas dire. Ils sont d'accord. Pourquoi? Ils sont d'accord pour se retirer du scrutin?
Non, c'est Bédier. Bédier l'a écrit. Allez sur son compte Twitter, vous allez voir ce qu'il a écrit. Il a dit, je suis d'accord avec le GPS de Guillaume Soro pour une unité d'action. Je ne suis pas en train d'inventer. Allez, vous allez voir.
C'est encore très vague pour nous. C'est encore très vague en termes d'action.
Pourquoi vous êtes plus incrédule que nous, qui nous parlons au téléphone?
Ce n'est pas de l'incrédulité. Peut-être que nous sommes un peu sceptiques, parce que nous savons que vous avez été adversaire, voire même des ennemis dans le passé, et qu'aujourd'hui, vous espérez simplement que ces personnes vous suivent dans ces actions que vous voulez intenter contre Ouattara.
Madame, c'est nous, on était adversaires, c'est nous, on est amis aujourd'hui. Où est votre problème? Je vous dis que j'ai eu les uns et les autres. J'ai eu le président Gbagbo au téléphone. Donc, où avez-vous votre problème dedans?
D'accord, nous n'avons rien contre votre amitié, M. Soro. Pourvu que ça profite à la Côte d'Ivoire, franchement, nous n'avons rien contre votre amitié.
Bien sûr. Bon, nous, là, qui étions adversaires hier, c'est nous, on est d'accord pour dire qu'on va faire une unité d'action. Donc, suivez-nous et puis rendez compte au monde, c'est tout.
Alors, est-ce qu'il y aurait une action que le président Alassane Ouattara pourrait poser et qui, selon vous, calmerait les tensions et permettrait de sortir de cette crise politique?
Monsieur Ouattara a eu le temps de poser toutes les actions en faveur de la paix. Vous trouvez qu'aujourd'hui, après plus de 30 morts en Côte d'Ivoire, depuis que M. Ouattara a dit « je vais faire un troisième mandat », il y a eu plus de 30 morts en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 200 arrestations, dont des femmes comme vous qui sont en prison aux mains nues. La Côte d'Ivoire est au bord du gouffre. Donc aujourd'hui, M. Ouattara, par son entêtement à vouloir faire un troisième mandat, va brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous, opposition et opposants responsables, candidats qui avons été arbitrairement exclus, nous sommes en train de nous organiser pour ne pas qu'il y ait cette élection qui va brûler la Côte d'Ivoire.
Il n'y a rien qu'il puisse faire pour que pour une entente, pour un dialogue, pour que la tension puisse retomber, selon vous.
Ce que M. Ouattara peut faire, c'est de se retirer de cette élection présidentielle qui lui est interdite par la loi fondamentale, la Constitution ivoirienne. Je dis simplement, M. Ouattara doit se retirer. M. Ouattara a fait une rébellion en Côte d'Ivoire pour être candidat, non? Alors, donc, M. Ouattara, qui a été exclu en 2000 pour nationalité douteuse, qui a été exclu en 2000 pour moralité douteuse, est-ce qu'il a abdiqué? Est-ce qu'il a abandonné? De 2000, il s'est battu.
Vous étiez quand même l'un de ses grands supporters. Vous avez contribué à ce qu'il puisse.
Bien sûr.
C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'une part de responsabilité venant de votre part aussi.
Oui, non. Je n'ai jamais nié ma responsabilité. J'ai soutenu M. Ouattara, encore que ses partisans disent que je n'ai rien fait. Donc, ils sont en train de m'absoudre. Mais tant mieux. Mais j'ai soutenu M. Ouattara justement parce qu'il était exclu. Donc, aujourd'hui, je soutiens Gbagbo, Bédier et tous les autres parce que M. Ouattara veut les exclure. Je suis un homme qui suis contre les exclusions et les injustices.
Merci Guillaume Soro. Nous continuons le débat avec le Mali.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Le Mali entame son deuxième mois sans président, sans gouvernement ni assemblée nationale. Après plusieurs sommets extraordinaires et la tenue des journées de concertation nationale, le pays se cherche toujours une voie de sortie de crise. Et la CEDEAO intransigeante veut des civils pour diriger la transition. Seule condition pour la levée des sanctions qu'elle a imposées au Mali. Ibrahim Koulibaly, on se demande aujourd'hui quelle alternative pour le Conseil national pour le salut du peuple entre son ambition de diriger cette transition et l'intransigeance, on va le dire, entre guillemets, de la CEDEAO.
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, vraiment, moi je n'aimerais pas être à la place de la junte parce que le temps a fait qu'ils sont dans une très mauvaise posture. Aujourd'hui, la communauté internationale est intransigeante, donc on veut un président civil avec un premier ministre civil. C'est vrai, ils ont effectué le voyage au Ghana pour rencontrer le président de la CEDEAO et certains de ses homologues. Ils sont retournés avec le même résultat. À la différence près qu'un poste de vice-président chargé de la défense et de la sécurité a été accepté, ce qui est un profil typiquement taillé sur mesure pour militaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la porte de sortie honorable pour le CNSP, c'est d'accepter de faire élire un président civil et un premier ministre civil pour qu'on puisse aller à une transition civile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations, il n'y a pas de lisibilité. Aux dernières informations, sinon aux dernières rumeurs, parce qu'il n'y a pas d'informations précises, aux dernières rumeurs, entre eux-mêmes, il n'y a pas en tout cas un accord précis. Certains veulent qu'ils gardent en tout cas la présidente, certains veulent qu'ils lassent ça à un civil. Donc aujourd'hui, tous les regards sont braqués vers Kati. On attend une décision claire de leur part. Hier soir, il y a eu des rumeurs faisant en tout cas état de la mise en place du collège qui doit choisir le président, le nouveau président.
Qui a commencé à travailler. Mais est-ce que vous expliquez cette position de la CEDEAO face au Mali? Est-ce que la CEDEAO a peur de laisser faire comme elle l'a fait en 2012 avec Amadou Sanogo contre ATT, par exemple?
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'accepte un coup d'État militaire. Donc ça, c'est connu. Ce n'est pas le Mali seulement, c'est l'ensemble de la sous-région, c'est le monde entier aujourd'hui. Donc, ce qui est arrivé contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était normal, c'était suite, en tout cas, à une révolution citoyenne. Tout le monde savait que ça n'allait pas. Ces jeunes sont venus parachever ce travail. Ils ont été salués par les Maliens, adulés par les Maliens. Mais aujourd'hui, en tout cas, cette ferveur est en train de se tomber parce que les gens ne voient pas beaucoup de lisibilité dans leurs actions.
Ibrahim, je vous propose d'écouter la réaction de l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, qui, lui, par contre, craint qu'une précipitation dans les décisions ne fasse retomber le Mali dans les mêmes erreurs. On l'écoute.
Je pense que notre pays mérite, pour sa stabilité et sa continuité, de prendre le temps qu'il faut pour faire le bon boulot qu'il faut à la satisfaction de tout le monde. Et ça va amener de la stabilité. Parce qu'en 2013, on s'est précipité, tout le monde nous a mis la pression pour qu'on fasse tout dans un certain délai. Et comme vous l'avez vu, le résultat est là. C'est-à-dire que nous avons un système électoral qui est complètement faussé et biaisé, et donc dans lequel le gouvernement peut mettre les mains et tripatouiller à tout moment. Et ce n'est pas ça qui va nous amener la stabilité.
À l'instant, l'ancien Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra. Ibrahim, vous l'avez entendu, est-ce qu'on ne précipite pas les choses?
Madame, un mois après le départ du président Ibeka, il n'y a pas de président, il n'y a pas de Premier ministre. Vous pensez qu'on est dans la précipitation? Non, on n'est pas dans la précipitation. Quand il utilise le mot précipitation, je le comprends en termes de délai, de la durée de la transition. Parce qu'en une année, c'est difficile de régler les problèmes du Mali. Je comprends en ce sens-là. Mais le temps de mettre les institutions en place, il faut démarrer quelque part, rassurer la communauté internationale pour que les gens vous accompagnent, pour que les gens vous aident. C'est tout ce qu'on demande au CNSP.
Monsieur Guillaume Soro, vous qui êtes l'invité principal de ce débat, dites-nous, est-ce que vous comprenez la position de la CEDEAO face à la junte malienne?
Disons que j'ai exactement la même analyse que Monsieur Koulibaly Ibrahim, parce que je pense que il faut... Et la CEDEAO se devait effectivement d'avoir une posture de fermeté. En revanche, j'ai très mal compris les sanctions qui ont été imposées au Mali sans tenir compte des aspects humanitaires. Je pense que ça, c'était une erreur, mais c'était la précipitation et le zèle de M. Ouattara qui a mené ça.
Mais l'embargo n'est pas encore total, hein? L'embargo de la CEDEAO
voilà,
n'est pas encore total.
Heureusement, sinon ce serait mortel pour les populations maliennes. Et on ne peut pas faire ça au Mali. En revanche, en ce qui concerne l'attitude donc, de la junte au Mali, je voudrais me permettre, comme M. Koulibaly Ibrahim, de dire qu'il faut aller vite et il faut... Un pays ne peut pas rester un mois, deux mois sans gouvernement, sans institution. C'est pas bon pour le Mali. C'est pas bon pour le Mali. Donc il faut aller dans le sens, effectivement, de rendre le pouvoir aux civils.
Gabriel Makaya, est-ce que le Mali, selon vous, aujourd'hui, est victime de la volonté, on va dire, de la CEDEAO de faire un exemple dans la sous-région?
Bon, c'est vrai. Les chefs d'État de la CEDEAO ont voulu sauver le Mali, mais ça sera difficile, étant donné que les militaires ne vont pas céder le pouvoir comme on leur demande maintenant. Là. Ils vont accepter un chasseur, n'offre jamais la tête du gibier. Ils vont s'imposer pour animer la transition. Mais ils vont garder le pouvoir, même les ont poussés peut-être à cette situation. Ils ont reconnu cela, non? Que les militaires veulent posséder le pouvoir, ils veulent s'accaparer du pouvoir, ils l'ont dit.
Alors la liaison n'est pas très bonne avec Gabriel, malheureusement. Ibrahim Koulibaly, Gabriel évoquait tout à l'heure déjà ces dissonances qu'on entend au sein des alliés de la junte militaire. Est-ce qu'aujourd'hui la junte est lâchée par ceux qui la soutenaient au début de cette action?
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une certaine division entre les Maliens. Il y a ceux qui soutiennent les militaires. D'ailleurs, au départ, tout le monde les soutenait, mais pensant qu'ils allaient remettre rapidement le pouvoir aux civils. Donc le fait qu'ils sont en train de traîner est en train de faire que, en tout cas, tous ceux qui ne sont pas pour le pouvoir militaire sont en train de les lâcher. Aujourd'hui, il y a des portes de sortie pour eux. Pour le moment, la grande majorité des Maliens est avec eux. Ils n'ont qu'à faire confiance aux gens. On a compris qu'ils ont des conseillers occultes qui viennent leur dire des choses qui les mettent en porte-à-faux, en tout cas avec l'intelligence, avec
Vous pensez à qui? Quand vous parlez de conseillers occultes, vous pensez à qui? Des institutions, des personnes?
Des personnes, parce que c'est ce qui s'est dit, hein, c'est selon les rumeurs. Parce qu'on ne comprend pas leur hésitation jusqu'à ces niveaux, quoi. On ne comprend pas du tout pourquoi ils n'arrivent pas à se décider. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ils n'ont qu'à faire confiance au peuple malien. Le peuple malien est avec eux. Ils n'ont qu'à faire confiance. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre un président civil devant. Eux-mêmes, ils resteront. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu le pouvoir. Ils peuvent mettre leur homme. C'est à eux de désigner celui qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra désigner quelqu'un à leur place. Donc, pour nous, c'est ce qui est facile. Mais bon, ils ont leur propre façon de voir les choses.
Mais quand vous dites ils n'ont qu'à mettre quelqu'un qu'ils veulent, est-ce qu'on n'est pas, justement, comme l'ancien Premier ministre l'a souligné, en train de les pousser à poser des actes qui, après, ne seront pas profitables au Mali? Ils peuvent mettre quelqu'un qu'ils veulent et continuer donc de diriger en sous-marin.
Mais cela vaut mieux que de rester dans cette posture-là parce qu'on a des délais. La CEDEAO donne des délais. Donc nous sommes, une épée de Damoclès sur la tête du Mali. Le fait que, en tout cas, on hésite, on prolonge les délais, ça donne l'impression d'un bras de fer avec la communauté internationale, ce qui n'est pas une bonne chose.
Merci
donc,
beaucoup.
Dans ce consensus-là.
Merci Ibrahim Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Vous restez avec nous pour le troisième sujet de cette émission.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Les doutes sur la tenue des prochaines élections couplées législatives et présidentielles en Centrafrique à la date du 27 décembre 2020 se font de plus en plus présents. Le retard dans l'enrôlement des électeurs est un fait qui a été signalé par l'Autorité nationale des élections, mais le gouvernement de Bangui veut maintenir les dates. Il envisage donc de proroger le délai des opérations des enrôlements, tout en maintenant la date du 27 décembre, et cela pour l'opposition n'est pas faisable. Gabriel Makaya, j'espère que vous êtes toujours avec nous, Gabriel.
Oui, madame, je vous écoute. J'espère que la ligne ne va pas nous déranger.
Mais on l'espère également, puisqu'on parle de la Centrafrique actuellement. Il y a eu, semble-t-il, cette semaine des concertations entre le président Touadéra et certains leaders politiques. Qu'est-ce qui en est sorti?
Ah, madame, ce qui se passe chez nous, c'est un peu bizarre, compliqué, je dirais même un dilemme. Hein. Parce que vous voyez ce qui se passe chez nous, c'est vrai que la loi, c'est comme un enfant qui est né, qui grandit, qui vieillit et qui peut mourir. Mais seulement, la loi chez nous, là, ça sera difficile. De 90 jours, on veut ramener le délai à 45 jours. Et les députés vont être en session à partir d'aujourd'hui. Ils sont en session. Ils vont adopter cette loi pour modifier la loi portant code électoral. Seulement, il y a une norme qui est balisée. Et cela permet qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et les députés pourront, à leur âme et conscience, amender ou ajouter quelque chose pour que la loi soit positive. Mais je ne sais pas si on s'en sortira avec cette nouvelle loi.
Alors, quelles sont vos craintes réellement, Gabriel? Quelles sont vos craintes réellement sur ce qui se fait actuellement sur le calendrier électoral?
Le calendrier électoral, normalement, on devrait reconnaître, le pouvoir et l'opposition devraient reconnaître que l'organe chargé de la préparation et de l'organisation des élections est bloqué. Et qu'il faudrait trouver un consensus politique. Et c'est ce que le pouvoir ne veut pas entendre parler.
Le pouvoir veut donc maintenir ces élections pour le 27 décembre 2020. Et selon la programmation qui a été proposée par l'ANE, donc l'Autorité nationale des élections, cela est tenable.
Ce n'est pas du tout tenable. Si, les Centrafricains, dans leur majorité, sont inquiets de ce qui se passe et qui se trame. Hein? Nous ne voudrions pas repartir dans le même chaos, dans la même crise que le pays a connue dans un passé récent. Il ne faudrait pas nous replonger dans une crise préélectorale. Nous, on ne veut pas préélectoral ou post-électoral. Nous ne voudrions pas entendre parler d'une crise encore en Centrafrique, madame.
La Cour constitutionnelle, justement, avait prévu que s'il doit y avoir glissement sur le calendrier électoral, il faudrait une concertation nationale pour que cela se fasse. Est-ce que c'est ce qui est envisagé?
Je répète que le pouvoir ne veut pas entendre parler d'une concertation avec les forces vives de la nation. Et nous, en tant que journalistes, nous ne voudrions pas entendre parler d'une crise préélectorale ou post-électorale. Nous ne souhaitons pas cela en Centrafrique.
Ibrahim Koulibaly, la ligne est toujours un peu défectueuse. Nous allons prendre l'avis d'Ibrahim Koulibaly sur cette actualité centrafricaine. Est-ce que vous la suivez, ce report éventuel de la présidentielle tant attendu en Centrafrique? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je suis obligé de suivre l'actualité africaine. Vous savez, la Centrafrique, c'est un pays aussi fragile comme le Mali. Nous sortons de longues périodes d'insécurité. Donc, les dernières élections ont été très, très courageuses, ont été saluées par le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut à la dernière minute opérer des changements qui peuvent mettre en péril la bonne organisation des élections, moi, je trouve que vraiment, c'est celle-là et le côté inquiétant. Pourquoi les gens, les présidents africains ne sont pas prévoyants et prévisibles? Parce qu'il fallait des changements de dernière minute comme ça. Ça amène toujours des problèmes. Tous les problèmes découlent du non-respect du calendrier électoral. Parce qu'une fois qu'on veut pousser le calendrier électoral, on voit tout de suite en tout cas la fraude.
Mais
la
à la décharge du gouvernement centrafricain, il n'a pas rompu les négociations, les pourparlers avec la société civile et même l'opposition, vu qu'il y a un groupe de travail qui est là.
Bon, le groupe de travail, le plus souvent, vous savez, madame, en Afrique, les résultats sont connus d'avance. C'est ça, parce qu'ils mettent des gens qui vont reproduire dans les rapports exactement ce qu'ils veulent faire. Donc c'est ça le problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les Africains continuent de jouer avec les dates, les échéances comment dirais-je, électorales. C'est extrêmement important parce que le pouvoir se prend par les élections. Donc on ne peut pas s'amuser avec l'organisation des élections parce qu'aujourd'hui, les coups d'État sont interdits. C'est la seule voie pour prendre le pouvoir en Afrique. Mais pourquoi les gens veulent s'amuser avec les élections?
Nous allons prendre l'avis de ça. Guillaume Soro. Oui, merci. Merci, Ibrahim. Je m'excuse de vous couper. Nous sommes à quelques minutes de la fin de ce débat. Guillaume Soro, l'actualité en Centrafrique avec un éventuel report de la présidentielle. Selon vous, quelles pourraient être les incidences de ce report?
Madame, d'abord, je voudrais vous faire remarquer que l'Afrique donne un triste spectacle. À chaque fois, c'est à l'approche des élections que les tensions sont vives dans nos pays et révèlent en même temps la fragilité de nos États. C'est un constat que je vais vous faire. Les guerres en Afrique partent généralement des élections mal organisées ou mal préparées. Et ça, 60 ans après nos indépendances, que nous continuons de montrer de telles fragilités m'apparaît honteux pour nous, dirigeants politiques. Parce que pour moi, les élections devraient être l'occasion d'un passage harmonieux, d'un passage civilisé, tranquille, du pouvoir au vainqueur. Et que le vaincu n'est pas le sentiment que c'est la fin du monde et qu'il y a une vie après l'élection. Alors, ce constat fait, je pense aussi que ce qui génère ces crises, ces troubles, ces guerres, c'est l'absence de leadership et c'est l'absence de dialogue. Moi, je pense que ce qui se passe en Centrafrique, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, seule la vertu du dialogue peut aboutir à un compromis acceptable par toutes les parties. C'est pourquoi, à mon avis, sans connaître dans les méandres, les détails de la vie politique centrafricaine, je ne peux que souhaiter, l'Ivoirien que je suis, je ne peux que souhaiter pour ce pays qui sort d'une longue crise, je ne peux que souhaiter le triomphe du dialogue pour que les Centrafricains aillent à un compromis qui satisfasse toutes les parties et qui préserve la paix en Centrafrique.
Merci beaucoup, M. Soro. L'actualité centrafricaine, on va continuer, bien sûr, de la suivre. Je vous propose à présent d'écouter les réactions des auditeurs sur les trois sujets que nous avons abordés au cours de ce débat.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Côte d'Ivoire, Telly Barry demande à notre invité comment il compte procéder pour empêcher Ouattara de briguer un troisième mandat. De son côté, César Kouachio estime que Guillaume Soro ne fait que récolter ce qu'il a semé et que c'est de sa faute si la Côte d'Ivoire se retrouve dans une telle impasse aujourd'hui. Alseni Bandolou demande à Guillaume Soro s'il peut pardonner Alassane Ouattara de l'avoir privé de ses droits civiques et s'il est favorable à un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mali, Victor Lugwanza se demande pourquoi la junte tient à diriger la transition alors que les menaces de la CEDEAO planent sur sa tête telle une épée de Damoclès. Centrafrique, Touré Mamadou pense qu'il est normal pour la Centrafrique de reporter les élections car le pays n'est pas encore prêt pour un vote crédible et transparent. L'activiste FD Kapuka estime par contre que les élections doivent avoir lieu car c'est le seul moyen de consolider la paix en République centrafricaine. Merci à Atse Abel Akpe qui nous suit depuis Lomé au Togo. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci, bon week-end à vous également Didier Ladislas Lando, producteur de cette émission. Quelques minutes pour vous, Monsieur Guillaume Soro, invité, grand témoin de ce débat, pour répondre peut-être à quelques-unes des questions qui ont été posées.
Alors, comment nous allons faire front face à M. Ouattara? Cela commence déjà par nous mettre ensemble. Et ce processus est en cours, qui sera visible, manifeste, le dimanche prochain. Donc, ça, c'est très important. Et c'est à partir de cette union que nous allons envisager de façon concrète sur le terrain les actions à mener pour faire barrage et stopper M. Ouattara.
Et la deuxième question, seriez-vous favorable pour une intervention de l'armée, un coup d'état en l'occurrence?
Je trouve que c'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question parce que nous ne sommes pas dans l'arène militaire, nous sommes dans l'arène politique. Et l'homme politique que je suis, ne peut qu'envisager, au regard de la Constitution et se fondant sur notre loi fondamentale, toutes les actions légitimes, légales, pour nous opposer à Ouattara.
Merci beaucoup.
Merci. On n'a jamais parlé de coup d'État.
Monsieur Guillaume Soro, qui était l'invité de ce débat, BBC Afrique, Afrique Radio, nous avions également avec nous deux confrères, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Merci beaucoup, Ibrahim.
À vous.
Nous avions également en direct depuis Bangui en Centrafrique, Gabriel Makaya, journaliste centrafricain, directeur de publication du journal Le Langage. Merci Gabriel.
Merci madame.
Merci également Abdou Diop pour la réalisation technique et Didier Ladislas Lando pour la production. Et un grand merci à vous qui nous suivez sur Africa Radio et BBC Afrique. L'émission est disponible également sur nos sites internet et vos avis nous intéressent. Partagez-les sur notre page Facebook. Portez-vous bien.
55 minutes pour comprendre l'Afrique et ses changements vus d'ici et de là-bas.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Deux journalistes passent en revue les événements de la semaine avec un invité au cœur de l'actualité. Tous les samedis à 10h02, temps universel, rediffusion le dimanche à la même heure.